VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manila Kiza, la présentation de cette édition du mardi 6 juillet 2021. Voici d'abord le sommaire. Au Ghana, l'opposition manifeste à Accra contre le gouvernement. En RDC, une femme nommée à la tête de la Banque centrale, c'est une première dans ce pays.
On se dit que c'est très bien mérité. C'est une femme qui a une grande expertise, expérience dans ce domaine-là.
Vive tension entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie à propos du remplissage du grand barrage de la Renaissance sur le Nil bleu. Aux États-Unis, le président Joe Biden lance un nouvel appel aux Américains encore hésitants à se faire vacciner contre le Covid-19. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Ghana, quelques milliers de partisans de l'opposition ont manifesté à Accra contre les mesures du gouvernement du président Nana Akufo-Addo et les violences policières. Les précisions avec Claire Morin-Gibourg.
C'est la première manifestation d'envergure depuis la présidentielle. Dans la capitale, des manifestants chantaient, brandissant des pancartes sur lesquelles il était écrit « Les jeunes sont au chômage et pleurent, réparez le pays ». Ou encore, les Ghanéens sont en train de mourir, Akufo-Addo, réveille-toi. Le NDC, principal parti d'opposition, avait appelé à une marche pour la justice. À la fin juin, une marche de contestation a fait 2 morts et 4 blessés dans le sud du pays. Depuis plusieurs semaines, le hashtag Fix the Country ou Réparer le pays rassemble des mécontents sur Twitter pour protester contre les difficultés économiques depuis le début de la pandémie. Face au poids de la dette publique et aux retombées de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a imposé de nouvelles taxes qui, conjuguées à la hausse des prix du carburant, ont provoqué le mécontentement de nombreux Ghanéens.
L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, condamné à 15 mois ferme mais pour outrage, poursuit ses recours judiciaires, dont une audience mardi, pour éviter une éventuelle arrestation. M. Zuma avait jusqu'à dimanche soir pour se rendre, sinon la police avait reçu ordre de l'arrêter à compter de mercredi minuit. Mais il a obtenu que la cour réexamine sa sentence. Une nouvelle audience est prévue lundi prochain. Entre-temps, il a réclamé que l'ordre de procéder à son arrestation soit suspendu. Le ministre de la police avait renoncé à l'arrêter cette semaine. Les autorités ont déclaré dans un courrier adressé à la Cour constitutionnelle qu'elles n'interviendraient pas avant la fin de la bataille judiciaire. La police et l'ANC au pouvoir redoutent qu'une arrestation de l'ancien président ne provoque des troubles publics. 9 pirates qui ont tenté de détourner un navire dans les eaux togolaises en mai 2019 ont été condamnés hier soir à des peines allant de 12 à 20 ans de prison et à de lourdes amendes à Lomé. C'est la première fois que des pirates sont jugés au Togo. Nanit Talani pour les détails.
10 prévenus, dont 7 Nigérians, 2 Togolais et 1 Ghanéen ont été jugés pour piraterie maritime, violence volontaire et groupement de malfaiteurs. Un ressortissant togolais a été acquitté. Le Ghanéen, en fuite, a écopé de 20 ans de prison avec un mandat d'arrêt international. Les 8 autres ont été condamnés à des peines de 12 à 15 ans de prison avec des amendes allant de 25 à 50 millions de francs CFA. L'avocat des accusés, Maître Atta Kam Dovi Avouyi, estime que l'accusation n'a pas rapporté des preuves suffisantes et s'est dit déçu par le verdict. Par contre, le procureur général Kodjo Nyambi Garba s'est dit satisfait. Il faudrait que les gens comprennent que les pirateries et les vols à main armée en mer seront punis, a-t-il déclaré à l'issue du premier procès visant des pirates au Togo. Cette affaire est liée au tanker Gedona 1 qui avait été attaqué en mai 2019 dans les eaux togolaises par des pirates à bord d'une pirogue, mais la marine togolaise avait réussi à arraisonner le navire. Les kidnappings contre rançon sont devenus fréquents dans le golfe de Guinée. L'an dernier, plus de 95% des enlèvements de marins recensés dans le monde ont eu lieu dans cette zone.
En RDC, le président Félix Tshisekedi a nommé Madame Marie-France Malangu-Kabedi Mbuyi, gouverneure de la Banque centrale du Congo, la BCC. Madame Malangu a travaillé pendant 32 ans au FMI, Âgée de 63 ans, Madame Malangu est la première femme à être nommée à la tête de la Banque centrale depuis sa création en 1961. Sa nomination a été largement saluée aussi bien par des membres de la majorité que de l'opposition congolaise. Nous y reviendrons en page magazine. L'Égypte et le Soudan ont rejeté l'initiative de l'Éthiopie d'entamer sans accord préalable la seconde phase de remplissage du barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu. L'opération risque d'aggraver la tension avant une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU jeudi. Addis Abeba, inflexible, a même dénoncé l'ingérence de la Ligue arabe dans ce différend. Les précisions de John Lyndon.
L'Égypte et le Soudan ont annoncé avoir été informés par Addis Abeba du début de la deuxième phase de remplissage du barrage de la Renaissance construit par l'Éthiopie en amont du Nil Bleu. Le Caire rejette fermement cette mesure unilatérale et Khartoum a dénoncé une violation flagrante du droit international et a évoqué un risque imminent. À deux jours d'une réunion du Conseil de sécurité à la demande de la Tunisie, membre non permanent du Conseil, l'Égypte et le Soudan appellent l'ONU à soutenir leur position sur un accord contraignant sur le remplissage et l'exploitation de ce barrage. En juin dernier, la Ligue arabe a annoncé qu'elle soutenait une intervention du Conseil de sécurité dans cette affaire. Une position rejetée par l'Éthiopie qui insiste que les négociations se déroulent dans le cadre d'un processus en cours sous l'égide de l'Union africaine. Addis Abeba considère ce projet comme crucial pour son autonomie énergétique et son développement. Le Caire et Khartoum le voient comme une menace pour leurs ressources en eau. Les États-Unis, l'Union européenne et l'Union africaine ont tenté, mais jusque-là, aucune médiation n'a réussi à rapprocher les positions.
Plus de 730 000 Mozambicains déplacés dans le nord du pays en proie à des violences djihadistes pourraient être livrés à la fin des août, avertit le Programme alimentaire mondial PAM mardi, si de nouveaux fonds ne sont pas levés. L'agence onusienne affirme avoir besoin d'au moins 5 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Les enfants sont les plus affectés. Quelques 75 000 petits de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë. L'ONU s'est montré mardi profondément préoccupé face à la violente répression des manifestations contre la monarchie en Eswatini. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme demande au gouvernement de veiller à ce que des enquêtes rapides, transparentes, efficaces, indépendantes et impartiales soient menées sur toutes les allégations de violation des droits humains, y compris celles commises par les forces de l'ordre dans le cadre des manifestations, et que les responsables soient tenus de rendre des comptes, a déclaré une porte-parole, Liz Frossel, à Genève.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden lance cet après-midi un nouvel appel aux Américains encore hésitants à se faire vacciner contre le Covid-19. Il va livrer ce message au moment où le variant Delta se propage à travers le pays. Le point avec Abdelrahman Dia.
L'administration Biden s'était fixée pour objectif de faire vacciner au moins partiellement 70% de la population adulte à la date du 4 juillet, coïncidant avec la fête de l'indépendance. Ce but n'a pas été atteint au niveau national, même si 20 États sur 50 ont dépassé cet objectif. C'est donc pour éviter une lutte contre le Covid-19 à deux vitesses que le président Biden a décidé de réitérer cet appel à se faire vacciner pour que les Américains puissent retrouver pleinement leurs activités. En recevant un millier d'invités le 4 juillet, il a salué les progrès réalisés dans la campagne de vaccination, mais rappelé que la bataille est loin d'être terminée.
Il y a 245 ans, nous avons déclaré notre indépendance vis-à-vis d'un roi lointain. Aujourd'hui, nous sommes plus près que jamais de déclarer notre indépendance face à un virus mortel. Cela ne veut pas dire que la bataille contre COVID-19 est terminée.
L'administration Biden engage donc une course contre la montre pour faire vacciner le maximum d'Américains avant que le variant Delta ne se propage davantage.
La société informatique américaine KCA espère redémarrer ses serveurs mardi pour permettre à ses milliers de clients d'accéder au plus vite à leurs services en ligne après une cyberattaque massive au rançongiciel qui pourrait avoir affecté jusqu'à 1500 entreprises dans le monde depuis vendredi. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'est le moment de suivre votre actualité économique en Afrique et ailleurs. La Minute Éco signée ce soir par Nathalie Barge.
Au Niger, le Trésor public va boucler jeudi une émission simultanée d'obligations de relance visant à mobiliser 60 milliards de francs CFA sur le marché régional. Les titres publics en adjudication ont des maturités de 5 à 10 ans avec des taux d'intérêt entre 5,90% et 6,25%. En mai, le pays avait collecté 77 milliards de francs CFA à travers trois obligations de relance. Il souhaite mobiliser 435 milliards de francs CFA en 2021. L'Éthiopie a dénoncé l'ingérence de la Ligue arabe dans le différend qu'il oppose à l'Égypte et au Soudan au sujet du barrage sur le Nil à deux jours d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. La Ligue arabe a annoncé le mois dernier qu'elle soutenait une intervention du Conseil de sécurité dans cette affaire, malgré l'insistance de l'Éthiopie pour que les négociations se déroulent dans le cadre d'un processus en cours sous l'égide de l'Union africaine. Les prix du pétrole ont grimpé de plus belle ce mardi, portés par la mésentente des membres de l'OPEP et de leurs alliés qui pourraient entraîner une offre limitée du cartel dans les prochains mois. La réunion de lundi a été annulée sur fond de désaccord entre les Émirats arabes unis et le reste du groupe. Abu Dhabi demande à ce que son volume de production de référence reflète davantage sa pleine capacité de production.
Et dans notre page des sports, Yacouba Ouédraogo avec nous ce soir. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. NBA, pour commencer, le meilleur joueur de Milwaukee Bucks, Gianni Antetokounmpo, blessé à un genou, va mieux. Mais selon son entraîneur Mike Budenholzer, il reste incertain pour la finale ce soir face au Phoenix Suns. Bagasikoura.
Il fait des progrès, mais je n'ai pas d'attente particulière dans un sens comme dans l'autre, déclare Mike Budenholzer. La superstar grecque d'origine nigériane, MVP en 2019 et en 2020, a manqué les deux derniers matchs de la finale de la Conférence Est contre Atlanta après une hyper-extension du genou gauche subie lors du match numéro 4 de la série. Sorti des playoffs à rebondissement, les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks s'affrontent à partir de cette nuit. Une affiche inédite, inattendue et équilibrée qui marque un renouvellement de la Ligue jamais couronnée en 53 ans d'existence de la franchise. Phoenix est de retour en finale pour la première fois depuis 1993, tandis que les Bucks titrés en 1911 n'avaient plus fréquenté ce niveau depuis 1974.
Merci Bagassi. Football, la première demi-finale de l'Euro se joue ce soir entre l'Italie de Roberto Mancini et l'Espagne de Luis Enrique à Londres. L'Italie a perdu le précieux Leonardo Spinazzola, blessé. Il sera remplacé par Emerson, son remplaçant naturel sur le flanc gauche. Pour Luis Enrique, la seule interrogation concerne l'état de santé de Pablo Sarabia, buteur contre la Slovaquie et la Croatie, mais blessé à l'adducteur droit. L'attaquant du Paris Saint-Germain pourrait céder sa place à Dani Olmo ou Michael Oyarzabal. En Allemagne, les stades de la Bundesliga, à l'exception du Bayern Munich, pourront accueillir sous condition jusqu'à 25 000 spectateurs à la reprise du championnat. C'est ce qu'annonce la ville de Berlin à l'issue d'un accord entre États régionaux. La jauge adoptée prévoit que les stades puissent être remplis à 50% de leur capacité. Les spectateurs devront en outre porter un masque jusqu'à ce qu'ils aient gagné leur place dans les gradins. La Bavière, où évolue le champion en titre, le Bayern Munich, a décidé d'une jauge un peu plus restrictive avec 20 000 spectateurs au maximum, soit 35% de la capacité du stade. La saison de Bundesliga doit débuter le 13 août par la rencontre entre Mönchengladbach et le Bayern Munich. Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo et les autorités locales japonaises demandent au public de s'abstenir d'assister au marathon et aux épreuves de marche en raison des risques d'infection au Covid-19. Le marathon et les épreuves de marche doivent se tenir à Sapporo, à plus de 800 km de la capitale japonaise. Le marathon féminin doit se tenir le 7 août et celui messieurs au dernier jour des Jeux qui s'ouvre le 23 juillet.
C'était l'espoir de Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila-Kizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. En Guinée, plusieurs innovations sont portées par des jeunes pour booster le système éducatif. Il s'agit pour certains de proposer des cours en ligne grâce aux applications et pour d'autres, c'est de renforcer la connaissance des élèves à travers des cours de révision en présentiel. On fait le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
Dans quelques jours, plusieurs dizaines de volontaires seront déployés dans une partie de la Moyenne Guinée au compte de l'initiative 224 Objectif Bac. L'année dernière, seulement 609 élèves ont obtenu leur bac sur plus de 2000 candidats présentés par la région de l'Abbé. Un faible taux de réussite qui ne peut laisser indifférent Mohamed Ali Kondé, coordinateur du collectif.
Notre méthode consiste à inverser le préétabli, c'est-à-dire qu'à la base, sur les 9 mois, les enfants ils étudient la théorie après la pratique. Et donc, nous partons de la pratique à la théorie. Du coup, nous concevons des sujets sur les différents chapitres.
Cette année, 83 volontaires seront mobilisés pour apporter une assistance pédagogique aux candidats au bac et au BEPC. Tout comme Mohamed Ali, le club des jeunes scientifiques francophones de Guinée fait des élèves guinéens la cible de son activité. L'ONG porte un projet d'alphabétisation numérique destiné aux enfants. Djibril Ouagé, directeur exécutif du club.
Nous passons pour conseiller les parents à partir de maintenant de savoir oui quel type d'application il faut télécharger pour l'enfant, lorsque votre enfant se situe dans quel intervalle d'âge, et également attirer l'attention des établissements d'enseignement scolaire qui possèdent des centres informatiques pour leur dire que nous avons ici l'expertise qui permet de faire fonctionner Scratch. Et c'est une solution qui fonctionne sans internet. Nous faisons du conseil, nous faisons du déplacement sur site, nous faisons l'apprentissage et la formation pour les enfants et également pour la formation des formateurs.
Considérant les responsabilités de tous dans l'éducation des enfants guinéens, l'entreprise Magoué Technologies a lancé une plateforme numérique qui met à contribution les parents, les enseignants et les élèves. Pour Mohamed Lamine Touré, directeur général adjoint de l'entreprise, il s'agit de proposer un environnement numérique adapté aux besoins des établissements scolaires et universitaires.
Nous avons développé un pointeur qui s'appelle Nabe, un dispositif qui est déjà installé à l'école. Un élève, à partir de son téléphone, à partir de son badge, dès qu'il pénètre la cour de l'école, automatiquement le système l'enregistre, l'élève est présent. Et à part cela, nous avons développé un algorithme à l'intérieur de Mago Education qui permet de faire la pédagogie de différenciation, de pouvoir segmenter la classe pour un enseignant pour dire voici il est bien dans tel chapitre.
Le gouvernement guinéen promet de réaliser l'informatisation et la digitalisation de la gestion administrative et pédagogique du département en charge de l'éducation. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Une femme à la tête de la Banque centrale du Congo pour la première fois depuis sa création. Le président Félix Tshisekedi a nommé hier une ancienne chef de mission de Fonds monétaire international, Madame Marie-France Malangu Kabedi Mbuyi, pour diriger l'institution de la trésorerie congolaise. Eddy Isango a joint à Kinshasa la porte-parole adjointe du président Tshisekedi, Tina Salama.
Ici, on va dire qu'au-delà de toutes ces questions sur le genre, sur la promotion de la parité, c'est quand même mérité. Hein, parce que quand vous voyez le profil, hein, le parcours académique et autres professionnels de Mme Bouy, on se dit que c'est très bien mérité. C'est une femme qui a une grande expertise, expérience dans ce domaine-là. Aussi, parce que le président de la République veut promouvoir les femmes. On l'a vu, que ce soit d'abord au sein de la présidence, où il y a eu des femmes qui ont occupé des postes très, très importants, ce qui n'avait jamais été fait par le passé. On a des femmes ici qui sont conseillères principales, conseillères spéciales, des femmes qui sont directrices de cabinet du chef de l'État, mais pas que, au sein du gouvernement aussi, pour le premier gouvernement Ilunkamba, pour le gouvernement Samalou Kondé. Il a également insisté pour qu'il y ait cette représentativité, représentation des femmes. Et donc, Aujourd'hui, depuis que notre pays a accédé à l'indépendance, vous avez des femmes qui sont ministres, qui sont vice-premières ministres, donc VPM, qui occupent des postes importants et dans des portefeuilles assez intéressants comme les mines, comme la justice et tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment un cheval de bataille du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi.
FMI était en discussion ou est encore en discussion avec la RDC et a fait certaines exigences. Madame Moulangou était chef des missions du FMI quelque part au Cap-Vert et puis au Burkina Faso. Quels sont les défis qui l'attendent?
Au-delà, on va dire, de cette embellie hein, sur l'état de réserve de change ici au pays, il y a également cette mission principale hein, pour tout gouverneur de la Banque centrale, c'est-à-dire maintenir la stabilité monétaire du pays. Il faudrait renforcer l'autonomie ou l'indépendance de la Banque centrale du Congo, conclure avec le FMI, comme vous venez de le dire, ce programme triennal qui est tellement attendu ici au pays. Donc, elle devra, Madame Alangou, suivre ces négociations. Ce qui est bien, c'est qu'elle s'y connaît. C'est une experte. Elle a travaillé pour le FMI pendant plus de 30 ans, donc elle sait comment ça se passe.
Mais qui est-elle, Madame Moulangou Abedi?
Elle a étudié à l'ULB hein, en Belgique, à l'Université libre de Belgique. Elle a une licence en économie. Elle a également fait un master en économétrie. Et donc après, elle a quand même travaillé quelques temps là-bas à l'ULB avant de venir travailler ici à l'ancienne banque centrale du Zaïre. Hein. Donc, après, elle est partie au FMI. Donc ça va lui faire quand même plus de 30 ans d'expérience au Fonds monétaire international où elle a occupé plusieurs postes et fonctions. Elle a été donc également, on va dire, expatriée. Hein. Elle a cette carrière internationale. Donc elle a fait plusieurs pays, je pense au Bénin ou au Cameroun, elle était représentante résidente, on sait ce que c'est quand même une fonction très importante. Elle a également été au Cap-Vert, chargée de mission au Burkina Faso, mais pas que. Elle a donné cours, donc elle a enseigné à l'Institut de formation du FMI. Elle a également été directrice du département Afrique, pardon. Donc voilà, elle a pratiquement eu toute sa carrière internationale au sein du FMI.
Tina Salama, porte-parole adjointe du président Félix Tshisekedi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Zimbabwe, les défenseurs de l'environnement tentent de rallier l'opposition à un projet chinois d'exploitation du charbon dans le district où se trouve le plus grand parc du pays. Les détracteurs affirment que la population locale et la faune seront affectées et exhortent les autorités à abandonner ce projet au profit des énergies renouvelables. Columbus Mavhunga s'est rendu dans le district de Owange. Son reportage est rendu par Lionel Lunanira Gahima.
La plupart des villageois de Dindé, dans le district de Hwange, se disent opposés au projet d'extraction de charbon de Beifa Investments. Beaucoup ne veulent pas s'exprimer par peur des représailles. Maurice Shibanda est l'un des rares à vouloir exprimer son inquiétude.
Mes craintes sont les suivantes. Nous allons être expulsés. Deuxièmement, nous avons une rivière appelée Nyantoué où nous nous approvisionnons en eau. C'est notre principale source d'eau. Certainement, si cette mine démarre, ma crainte est que des acides toxiques seront déversés dans la rivière. Nous n'avons pas de forage, nous n'avons rien du tout.
Environ 600 familles craignent d'être déplacées si le projet d'exploitation au charbon est mis en œuvre. D'autres villageois craignent pour le bétail et les animaux sauvages. Mais Beifa Investments poursuit son projet d'exploration. Le gouvernement zimbabwéen affirme que les habitants de Dindé ont été consultés avant que la société ne soit autorisée à commencer l'exploitation minière. Amkela Sindage est responsable de l'éducation et de la publicité pour l'Agence de gestion de l'environnement du gouvernement. Elle affirme qu'un rapport d'évaluation de l'impact sur l'environnement a abordé et dissipé toutes les préoccupations.
Une étude pour l'exploration a été réalisée et une consultation publique a été faite. Leurs craintes ont été prises en compte. En fait, tant que l'étude a été réalisée, elle est contrôlée par l'agence. Donc rien ne sera fait qui soit en dehors de ce qui a été convenu dans le document pour l'exploration.
Farai Magouou est le directeur du Centre pour les ressources naturelles, une ONG locale. Son groupe s'oppose au projet, en partie parce qu'il n'existe aucun plan précis sur l'endroit où les villageois seront amenés s'ils sont déplacés. Et ce n'est pas tout.
But that will not happen Le Zimbabwe a l'intention de se doter d'une économie verte et réduire ses émissions de carbone de 33% d'ici à 2030. Mais cela ne va pas se produire si le pays continue à investir dans des énergies sales comme ce qui est sur le point de se produire à Dinde. Nous ne permettrons pas au gouvernement de parler à gauche et de marcher à droite.
Sibanda, comme la plupart des villageois des environs, dit qu'il ne sait pas de quoi demain sera fait. Il craint que d'autres projets de charbon soient approuvés et empiètent sur le parc national de Hwange, la plus grande réserve naturelle du pays.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, la troisième vague de COVID-19 en Afrique. Selon l'OMS, la vitesse de contamination et l'ampleur de la troisième vague qui touche le continent ne ressemblent en rien à ce que nous avons connu jusqu'à présent, poussant plusieurs pays à rétablir des mesures de restriction. Pendant ce temps, la campagne de vaccination est à la traîne en Afrique avec des gouvernements qui ont du mal à convaincre leur population de se faire vacciner. L'Afrique face à la troisième vague de COVID-19, c'est ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
En France, ce sont les derniers préparatifs avant le lancement officiel du Festival de Cannes demain mercredi. Une édition qualifiée de renaissance après la fermeture de salles de cinéma dans le monde à cause de la pandémie du coronavirus. 24 films sont en compétition face à un jury présidé par le cinéaste new-yorkais Spike Lee. Claire Morin-Gibourg a joint le professeur de cinéma Bokari Sawadogo qui intervient au pavillon Afrique du Festival de Cannes. Bokari Sawadogo, professeur de cinéma au New York City College et créateur du festival Harlem African Animation.
Oui, pour cette édition, je peux dire que l'Afrique est représentée. Ce qu'on ne peut pas dire de toutes les éditions passées du Festival de Cannes. Pour cette édition, on a deux sélections africaines dans la compétition, dans la sélection officielle, deux films africains, celui de Mohamed Saleh Haroun, Lingui, Les Liens Sacrés, et le deuxième film qui est tout simplement Haut et Fort de David Ayouch, le Marocain. Et on a deux autres sélections, un film d'une franco-tunisienne, Leila Bouzid, et un film égyptien au niveau de la semaine de la critique. Donc on a quatre films et on peut ajouter aussi au niveau du jury, on a Mati Diop qui fait partie aussi du jury. Donc on n'a pas encore pu élargir avec Spike Lee, l'afro-américain, qui est président du jury.
Et qui vient de faire un test ADN, il a donc des racines camerounaises.
Oui, très exactement, très exactement. Donc l'Afrique est très bien représentée. Et comme on est en cinéma, j'aimerais imaginer un scénario, peut-être pas loin de la réalité, là où Spike Lee remet le Palme d'Or à un Africain.
Ah, ça serait une très bonne fin du festival. Vous allez intervenir dans le cadre du pavillon africain. Qu'est-ce qui va s'y passer?
Pour le pavillon Afrique, qui a un cadre au niveau du festival de cinéma de Cannes, là où beaucoup d'activités relatives au cinéma africain s'y déroulent. Et c'est dans ce cadre où s'inscrit le panel sur l'animation africaine, là où je suis un des intervenants. Il y a Mohamed Ghezela, une figure importante au niveau de l'animation en Afrique. Et aussi, la deuxième intervenante, c'est voilà, une productrice sud-africaine et moi.
On a entendu, hein, vous espérez une palme d'or africaine. Est-ce que vous trouvez que aujourd'hui l'Afrique est de plus en plus présente sur ce grand festival international?
Je dirais oui pour cette édition, et parce que je me rappelle, il y a une édition, l'édition passée, ou bien il y a deux éditions passées, l'Afrique était presque quasi absente. Cette édition, elle est présente. On espère que la voix va porter plus haut. Et maintenant, c'est de travailler à une certaine continuité de cette présence et que ce soit aussi une présence massive pour permettre de décrocher la Palme d'Or.
Bokari Sawadogo, professeur de cinéma au New York City College et créateur du festival Harlem African Animation. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Eric Manila Kidza était avec vous à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.